Alors nous allons partager un sujet ce matin qu'on n'aborde jamais, même pas dans les instituts de théologie, c'est la discipline dans l'Église. Nous allons lire quelques versets, je vous encourage à les noter peut-être pour que vous puissiez dans vos prochains cultes personnels mieux méditer ce que nous allons aborder. C'est très sérieux, c'est le seul moyen pour que ce que nous venons de chanter soit vécu, parce qu'il y a des cantiques qui sont beaux, la mélodie par exemple de ce chœur est excellente, nous aurions pu chanter « Seigneur, nous voulons voir ta gloire ». Vous voyez, « Seigneur, nous voulons voir ta gloire, montre-nous, parle-nous, ce qui cache ton visage ». Vous connaissez ces cantiques, c'est des prières. C'est des cantiques, ce sont des prières qui nous indiquent en fin de compte ce que nous voudrions. Est-ce que nous le voulons vraiment, Seigneur, montre-nous ta grandeur ? Il y a un verset dans le psaume 22, je vous le cite de mémoire, ce verset qui est chanté dans toutes les églises du monde, que Dieu siège dans la louange de son peuple. Vous le connaissez ce verset. Alors je vais vous poser une question, réfléchissez bien avant de répondre. Ce n'est pas des questions bêtes ou des questions pièges, c'est des questions archi sérieuses. Est-ce que franchement Dieu est obligé de se manifester lorsqu'on le loue ? Bien sûr que non. Si Dieu se manifestait chaque fois que les chrétiens le louent, je peux vous dire qu'il se manifesterait beaucoup. Dieu se manifeste lorsque les chrétiens sanctifient le nom du Seigneur. Parce que de toute façon, quand le nom du Seigneur est sanctifié, il est glorifié. Et les gens le louent, ça c'est clair. Quelqu'un qui est dans la sainteté, ça m'étonnerait qu'il loue pas Dieu. Ça m'étonnerait. Venez me le dire. Si vous êtes dans ce cas, venez me voir. Jean chapitre 12, verset 26, c'est un texte où Jésus parle qu'il va mourir, qu'il se compare à un grain de blé, qu'il va donner sa vie pour que des multitudes soient sauvées, ce qui est notre cas. Mais il ajoute ceci, regardez bien, ce sont des textes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de méditer en tous les cas. Parce que l'évangile de Jean, c'est certainement l'évangile qui est le plus lu, mais ce n'est pas pour ça qu'il est compris. Jean chapitre 12, verset 26, c'est Jésus qui parle, regardez ce qu'il dit. C'est un verset, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir, des semaines entières. Vous savez, des fois, je reste sur des versets et des mois entiers avant de les présenter à l'Assemblée. Jean chapitre 12, verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Vous allez me dire, mais c'est super simple, ça. « Et là où je suis, regardez bien, là où je suis, là aussi, sera mon serviteur. » Résultat, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Gloire à Dieu. Alors vous allez dire, mais j'ai tout compris. Mais écoutez bien mes frères et sœurs. Vous savez, c'est une chose de venir à l'église, ça n'est une autre de le suivre. Comme il le demande. Dans le livre des Actes, dans le livre qui suit, il y a un verset qui en dit long sur ce qui se passait dans l'Église primitive, et je vous rappelle que l'Église primitive est notre modèle. Le modèle, ce ne sont pas les assemblées de Dieu, les églises évangéliques, les églises catholiques, le modèle, c'est la Bible. Actes chapitre 9, verset 31. Regardez ce verset qui résume, n'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Luc, le docteur Luc, pour écrire ce livre. Et il résume comment l'Église fonctionnait à cette époque-là. Acte 9, verset 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » Je vous signale que l'Église était persécutée, mais l'Église était en paix. La paix ne dépend pas des épreuves ou des circonstances. La paix, elle dépend de la communion avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, cette Église ? Elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Alors, pour ceux qui viennent pour les premières fois, la crainte, ce n'est pas la peur. C'est un profond respect des choses de Dieu. Donc, l'Église ne pouvait pas faire autrement que de s'édifier, donc de grandir, et de marcher dans la crainte du Seigneur, ça c'est pas lié à des réunions, c'est lié au tout le temps. Et elle, conséquence, et elle s'accroissait par les belles prédications de l'apôtre Pierre. Pardon. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'assistance du Saint-Esprit. J'ai volontairement pris ce chant, parce que vous savez, on chante des chants, mais je ne sais pas si on réalise, manifeste ta grandeur. Manifeste sa grandeur, ça veut dire que l'approbation de Dieu dans un lieu de culte fera que un malade, s'il met sa foi en Dieu, va être guéri. Un rétrograde, s'il revient avec ferveur, eh bien, le Saint-Esprit va le consoler, le pardonner, parce que, vous savez, c'est une chose que Dieu pardonne. Ça n'est une autre de se pardonner. Croyez-moi, il y a des chrétiens qui ne se sont jamais pardonnés parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils en avaient trop fait, alors que Dieu pardonne tout, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous aurions pu chanter un vieux cantique, « À toi la gloire, au ressuscité », ces cantiques qui sont pleins de beauté et qui en disent long sur ce que l'Église veut, enfin sur ce que l'Église souhaite. Alors, cette prédication, écoutez bien mes frères et sœurs, elle s'adresse aux chrétiens. Si vous n'êtes pas baptisés, ne vous sentez pas concernés, s'il vous plaît. Parce que, souvent dans les églises, il y a un gros mélange. Écoutez-moi bien, c'est vachement sérieux ce que je vais vous dire. Ce ne sont pas les pécheurs qui amènent la honte dans l'église. Les pécheurs, ils viennent comme ils sont. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un pécheur, il vient, il ne connaît pas Jésus, il est dans le péché, quel que soit son péché. Ça ne gêne pas le Saint-Esprit. Un pécheur, il peut venir comme il est. Peut-être il y a une prostituée ce matin, eh bien, repentez-vous. Mais ce n'est pas elle qui va amener la désapprobation de Dieu dans l'Église. Ce ne sont pas les pécheurs qui amènent la honte dans l'Église. Ceux qui amènent la honte dans l'Église, ce sont les chrétiens qui vivent dans le péché. Alors, qu'est-ce qu'un membre d'église ? Vous voyez, nous avons un bon fonctionnement, et c'est vrai que dans le sein de notre mouvement, par exemple, vous voyez, de demander que ceux qui sont baptisés par immersion prennent la Sainte Cène. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est une très, très bonne chose. Il faut que lorsque quelqu'un n'a pas encore, s'est pas converti, la Bible dit que quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe ? On abandonne les idoles. Si vous continuez à prier les morts, si vous continuez à prier les idoles, c'est que vous n'êtes pas converti. Mes frères et sœurs, vous savez, je sais la responsabilité qui est la mienne. De tout faire pour que ce qu'on vient de chanter, ça se manifeste. Et je peux vous dire, comme j'aime le dire, que Dieu est plus intéressé que nous à manifester sa gloire au milieu de nous. Nous, on est là souvent dans nos prières, je ne sais pas juger ces prières, mais il y a des gens, ils essaient de convaincre Dieu de manifester sa gloire. Écoutez, c'est bien, mais laissez-moi vous dire qu'il est certainement plus intéressé que vous à sauver des âmes et à manifester sa grâce comme on vient de le chanter avec ferveur. L'apôtre Paul, lorsqu'il enseigne Timothée, c'est un jeune pasteur, il lui dit « Écoute, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans l'église. » Dans une église, les anciens, les responsables, les diacres, les diaconesses doivent savoir comment on se comporte dans l'église. L'église du Seigneur, ce n'est pas une entreprise, ça c'est à la mode. On compare les églises à des entreprises, le pasteur c'est le patron de l'entreprise. Oui, c'est ridicule, parce que ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. L'église, ce n'est pas une entreprise. À la limite, l'église, c'est une famille. Ça tient debout. Mais l'église, ce n'est pas une entreprise avec un patron et des employés. L'église, c'est un corps qui a fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et qui veut la gloire de Dieu. Et Dieu veut manifester sa gloire. Mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas parce qu'on va chanter en boucle « Manifeste-toi ». On peut chanter pendant 36 heures, on peut essayer si vous voulez. On peut essayer de chanter un cantique sur « Manifeste-toi », on pourrait le chanter jusqu'à demain soir. On se relaie pour que nos voix se reposent, on amène du miel, etc. On essaye pendant 36 heures de chanter, de hurler, de taper des pieds, de trépigner pour que Dieu manifeste sa gloire. Est-ce que Dieu va manifester sa gloire pour autant ? On essaye. Vous savez très bien, ce que je dis est vrai, même si je le dis avec humour. Lorsqu'un chrétien est vraiment chrétien, c'est-à-dire repenti, converti, né de nouveau, il veut que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'est pas des mots qu'il récite parce qu'une prière nous encourage à le faire. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Ne nous imaginons pas un instant que la volonté de Dieu sera faite si le nom du Seigneur Jésus n'est pas sanctifié au milieu de nous. Un chrétien, il veut la présence de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous voulez ici? Qu'est-ce que vous voulez ici? Qu'est-ce que vous voulez au fait? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, répondez-moi. C'est une question piège. Quand vous venez ici, qu'est-ce que vous voulez? Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Une bonne communion fraternelle après le culte? Oh, est-ce qu'on l'aura? Oui, on l'aura. En plus, c'est sûr qu'on l'aura. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ce n'est pas une question bête. Des fois, je sais que j'ai des questions peut-être maladroites. Mais qu'est-ce qu'un chrétien qui a accepté Jésus-Christ veut le temps qui lui reste à passer sur la terre? Il veut que la présence de Dieu se manifeste. Et il est concerné. Si vous avez pris le baptême, c'est pas pour dire, hop, je deviens évangélique, hop, j'ai ma place dans le ciel, hop, même si c'est quand on sera pontain, c'est bien, comme on l'a déjà entendu, ce qui est ridicule. Quand on entre dans le royaume de Dieu, on devient un serviteur et une servante de Dieu. Vous vous rappelez ce que David a fait au bout de tant et tant d'années de souffrance, lorsqu'il a obtenu la royauté? Vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? La première chose que David a voulu faire. Vous vous rappelez? Quand David a obtenu la royauté, on peut le lire. On va le lire un peu parce que ça représente comment on veut ramener la présence de Dieu dans l'Église. Au chapitre 13 de 1 Chronique, c'est aussi dans Samuel, au chapitre 6, de Samuel chapitre 6. Mais là, on va le lire dans 1 Chronique 13. Mes frères et sœurs, David, est-ce que David a eu des hauts, des bas, des moments difficiles? Vous savez, David a eu des moments très, 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 très difficiles. Mais une fois qu'il a eu l'autorité et la royauté, il a consulté les anciens, les chefs. Regardez avec moi. C'est important, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une étude biblique sur David, c'est une façon de comprendre comment on peut ramener l'action du Saint-Esprit dans l'Église. 1 Chronique, chapitre 13, verset 1er. Regardez ce qu'il fait. David tint conseil avec les chefs, des milliers, des centaines, avec tous les princes. Donc, voyez, il a le souci, il réunit tous les responsables de la nation. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Résultat, toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous sont d'accord, mais c'est clair, on ne s'est pas préoccupé de ramener la présence de Dieu au milieu de nous. Ils ont dû dire, mais c'est une honte, on l'a pas fait du temps de Saül, qui lui était complètement désapprouvé de Dieu, etc., etc. Et c'est vrai que l'aveuglement, la désobéissance provoque un aveuglement. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas. Quand on n'obéit pas, on est aveugle, on ne comprend rien. On a du mal à comprendre, ou alors on comprend intellectuellement. Donc David fait cette proposition. Bien sûr, tout le monde est d'accord, parce que c'est la volonté de Dieu. Et David, bien sûr, il va regarder. Verset 6. David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Rappelez-vous que cette arche représente la présence de Dieu. Qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Uzza, c'était un jeune, Uzza ça veut dire la force, et Akio conduisait le char. David, regardez bien, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Je ne sais pas si vous réalisez, c'était, il y avait une immense joie qui pénétrait le cœur de ces hommes, et de David en premier. Pourquoi? Parce qu'il ramenait l'arche de Dieu à Jérusalem. En chantant, en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Celle de Jérôme. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, regardez bien, Uzza, c'est un jeune homme, hein, étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Est-ce qu'il a bien fait? Et bien sûr qu'il a bien fait, on aurait fait pareil. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Il dit, mais comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient. Et le problème, ça a duré en vérité 3 mois. Pendant 3 mois, écoutez bien, David avait l'accord des chefs. Et si on demande à tous les chrétiens du monde, prenez toutes les églises de France et dire voilà, qui veut la présence de Dieu dans l'église? Mais tous les pasteurs, en fait, je pense, tous les chrétiens vont dire, eh bien oui, nous, tous, on ramène l'arche de Dieu. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on s'appelle David et qu'on aime Dieu de tout son cœur et qu'on a traversé des moments bénis et que l'onction arrive sur la vie, que Dieu va bénir. Pendant 3 mois, David, il a consulté Dieu. Il n'a pas boudé, parce que ça, c'est ce qui caractérise les gens. Les gens boudent. Dieu n'a pas exaucé. C'est puisque c'est ça. Eh bien, je me retire. Je retire mes billes. Tatati, tatata. David, vous lirez la suite, il a consulté Dieu. Ça a duré 3 mois. Et bien sûr, quand on consulte Dieu, on lit la parole. Et quand David a consulté Dieu, il est tombé certainement dans le livre des Nombres, au chapitre 7, si je ne me trompe. Et dans ce chapitre, il a dû voir que l'arche de l'Éternel, on ne la portait pas sur des bœufs. L'arche de l'Éternel était composée de petits anneaux. Il y avait 4 anneaux tout petits. Les petits anneaux, c'est des petits trucs, on peut se dire. Et les détails aujourd'hui, vous savez les détails? Les détails, monsieur Gault, les détails. Les détails, on s'en fiche des détails. Mais l'arche de Dieu, on ne la porte pas sur des bœufs. Quand vous regardez en plus dans le livre des Nombres, c'est un peu inquiétant, parce que quand vous voyez les méthodes des Lévites, des Philistins pour porter l'arche de Dieu, c'est incroyable comme pourquoi il l'a mis sur des bœufs. Enfin, c'est un autre sujet un peu trop long et un peu compliqué. Mais enfin, une chose est certaine, il a dû se dire à un moment donné, il a dû se prendre la tête. Mais je sais pourquoi maintenant ce jeune homme est mort. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, quand on est pasteur, c'est quand même inquiétant de savoir la responsabilité que l'on a quand on veut ramener la gloire de Dieu dans les églises. Et quand je vois, moi, toutes ces églises où il n'y a plus de jeunes, ils sont morts, pas physiquement, mais ils sont spirituellement morts, et pourtant je peux vous dire que ça bougeait et ça dansait pour faire revenir la présence de Dieu dans l'Église. La présence de Dieu dans l'Église, ça ne peut venir qu'avec des hommes et des femmes qui ont le respect des choses de Dieu. David a été irrité, il a été malheureux, je ne sais pas si le mot est bien traduit en plus. Il n'était pas irrité contre Dieu, il était irrité contre la situation, vous comprenez bien, attention, parce qu'on a vite fait de mélanger. David voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc il va se mettre à chercher Dieu, et un jour il va dire, ah voilà, je sais. Vous voyez, c'est bien que tous les anciens soient d'accord, que tous les princes soient d'accord, que tous les responsables soient d'accord, mais ce qu'il faut, c'est faire comme la Bible le demande. Et il va dire, eh bien là, voilà, regardez bien, regardez avec moi chapitre 15. Un chronique chapitre 15, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Il prépara, écoutez-moi mes frères et sœurs, ce mot il est archi important. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, ça demande toute une préparation. Nous on dit Seigneur prépare les cœurs. Bon c'est bien, c'est pas une prière qui est mauvaise en soi. Mais en vérité c'est à nous de nous préparer les chrétiens. Vous avez vu le nombre de fois où Dieu dit, mais préparez le chemin de l'Éternel, préparez au désert, vous voyez, même si vous n'allez pas bien, Ésaïe 40, on en a parlé l'autre jour avec les anciens, préparez, on va le dire, gardez la page, c'est important mes frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas qu'on se culpabilise bêtement, il faut qu'on comprenne. Il y a des chrétiens, on leur met la pression. Moi, je ne vais pas vous mettre la pression. Je nous encourage à ce que l'on fasse selon la parole de Dieu. Vous êtes d'accord tous? Si vous avez pris le baptême par immersion, vous êtes engagés à faire en sorte que vous honoriez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe 40, on voit ce verset, moi qui m'a fait beaucoup réfléchir. Vous avez gardé la page d'un chronique 13. Une voix crie. Pourquoi Dieu crie-t-il? Aidez-moi. Pourquoi Dieu crie-t-il? Pour se faire entendre. Ça veut tout simplement dire que Dieu ne se, on n'écoute pas. Les gens n'écoutent pas, ils écoutent une prédication, bien sûr qu'ils vont vérifier si elle est intéressante, biblique, intelligente, peut-être, mais c'est pas ça. Dieu crie. Ça doit être quelque chose de terrible de voir ça. Il crie, préparez au désert. Voyez, je ne sais pas où on en est. Vous et moi, où on en est spirituellement, mais on voit bien que ce n'est pas grave. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Mais préparez, dans la situation où vous êtes, serait-ce le désert, le chemin de l'Éternel. Il parle d'aplanir les lieux arides, il parle de vallées étroites, il parle de vallons, les choses qui doivent être abaissées, les choses qui doivent être relevées, etc. Il faut absolument que dans l'Église, chacun, c'est pas le travail du pasteur, c'est le travail de toute l'Église, qu'est-ce que je dois faire? Et si vous regardez, vous pouvez le noter parce que certains sont intéressés, dans Ésaïe 62, verset 10, il est dit, préparez le chemin, ôtez les pierres. Oui, quand Dieu a dit à Marthe et à Marie, ôtez la pierre, franchement, non mais soyons honnêtes, est-ce que franchement, quand Jésus a ressuscité Lazare, il pouvait faire sortir et Lazare et rouler la pierre en même temps? Dites-moi, c'est quoi le plus dur, faire rouler une pierre ou ressusciter un mort en putréfaction? Est-ce que Jésus pouvait rouler la pierre? Enfin, voyons, ce ne serait pas la première fois. Mes frères et sœurs, il a dit, il a fait participer l'Église. Ôter la pierre. Et quand on veut préparer la gloire de Dieu dans une église, alors des fois on n'ose pas en parler, justement, parce que dans les églises, c'est difficile de parler de la discipline, parce que dans les églises, un dimanche matin, il peut y avoir 3, 4, 5 personnes nouvelles. Alors on peut dire, mais attends, mais si on parle de ce sujet, ils vont être complètement catastrophés. Eh bien, moi, je vais vous dire que non. Parce qu'ils comprendront ce qui se passe vraiment. Vous savez, des fois, il y a des pécheurs qui comprennent mieux que des chrétiens. Vous le croyez, ça? Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que leur cœur est ouvert. C'est tout. Et c'est vrai. Ésaïe 30, 21, voici le chemin, marchez-y. Ésaïe 68, verset 5, frayez le chemin à celui qui s'avance. Vous savez ce fameux cantique, chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. C'est magnifique, mais le contexte, et merci monsieur Olé, parce que lui m'a appris ça, le contexte c'est il faut préparer le chemin du Seigneur. Il faut le préparer. Il y a une préparation, elle doit être sérieuse, elle doit être joyeuse. Donc David réfléchit, il a pris 3 mois, je ne sais pas le temps que ça peut nous prendre, combien ça peut nous prendre pour voir dans le Nouveau Testament ce qu'il faut faire pour amener la présence de Dieu dans l'Église. Tiens donc, ça dépendra de notre soif, ça dépendra de notre souci. Tiens, qu'est-ce que Dieu me demande? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait obstacle à la bénédiction dans l'Église? C'est ça le problème, que rien ne viennent faire obstacle à nos prières. Donc David, il a préparé une place à l'arche de Dieu. Voyez verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu, vous voyez, il a réfléchi. Pourtant c'était David, sérieusement. L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour faire le service à toujours. Il l'a trouvé où ça? Eh bien dans la Bible. Etc, etc. Au verset 12, il appelle les Lévites et il leur dit, vous êtes les chefs des Lévites, des familles des Lévites. Sanctifiez-vous. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est qui les sacrificateurs? C'est qui? C'est tous les chrétiens. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. C'est une grâce, croyez-moi, mes frères et sœurs. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée, l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Oui, il y a eu... C'est de l'ignorance. En fin de compte, c'est l'ignorance, parce que l'intention était archibonne. Le cœur de David était vrai et sincère. C'était l'ignorance. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Et les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Verset 26, regardez, ça rejoint le texte qu'on a lu dans les Actes. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance. Et vous pouvez tous dire Amen. Parce que quand des chrétiens ont le souci de dire « Tiens, mais je veux l'assistance de Dieu », on n'aura pas l'assistance. Si je vis dans le péché, Seigneur assiste-moi, Seigneur ta grâce dans ma vie, si je vis dans le péché, ça ne marchera pas. Tout ça, c'est de l'hypocrisie ou de l'ignorance. Mais de toute façon, le résultat est le même. Vous vous asseyez sur un banc plein de peinture parce que vous n'avez pas regardé le panneau peinture fraîche ou parce que vous n'avez pas fait attention. Le résultat sur les affaires, ça sera le même. Ça sera la même difficulté pour enlever la peinture. Donc, il faut que nous sachions ce qui peut faire obstacle dans une église. Et il y a des gros problèmes, et il y en a eu ici, et il y en a. Par exemple, ça fait deux ou trois personnes qui me disent, vous savez, Monsieur Gualand, écoutez bien, c'est tout à fait sérieux ce que je vous dis. Ça commence comme ça. Il y a des gens, des nouvelles personnes qui ont été troublées parce qu'il y a des croyants, pas d'ici, mais des croyants qui viennent, qui se sont autorisés à distribuer des prospectus que je n'approuvais pas, mais qui l'ont fait en pensant faire du bien. Dans l'église, même Monsieur Olé, même Monsieur de Dieu ne distribuerait pas certains prospectus sans me demander si je suis d'accord. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on travaille dans l'intersoumission. C'est biblique ça, soumettez-vous les uns aux autres. Mais comment ? Même moi, je ne fais pas d'achat, pourtant je suis le responsable de l'église. Si ça dépasse, le conseil m'a dit, si ça dépasse, je passe 1 euro, eh bien, parlez-en au conseil. Voilà, je pourrais le faire, je ne le fais pas. Nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le résultat, c'est que nous ne nous en rendons pas compte, c'est un petit truc. Mais en vérité, ce sont des gens qui troublent. Alors reste à savoir dans l'église ce qu'il faut faire par rapport aux gens qui troublent. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit, tiens, par rapport aux gens qui troublent ? Et encore ? Hein ? Vous savez, mes frères et sœurs, ça vaut la peine de partager ce qu'on va partager. Alors, on va partir d'un texte qui, on va partager ce texte ce matin, qui a été évoqué par l'apôtre Paul dans l'église de Corinthe. C'est un 1 Corinthiens au chapitre 5. Il y avait un problème de débauche sexuelle dans une église où il y avait tous les dons spirituels. Regardez, on va le lire. Je vous demande, s'il vous plaît, de comprendre que ces choses ont été écrites pour que quand on chante « Seigneur, nous voulons voir ta gloire », « Seigneur, manifeste-toi », ça passera par la sanctification. Est-ce que c'est important pour vous ? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous diriez, en étant votre pasteur, si vous saviez que je vole dans la caisse, que je mens, que je trompe ma femme ? Qu'est-ce que vous diriez ? Et même si j'avais les mêmes prédications que là, qu'est-ce que vous feriez ? Sérieusement, vous pouvez vous lever et dire à haute voix. Voilà. Alors... voilà, il y a des gens polis, comme Monsieur de Dieu, qui dit « Monsieur Go, on vous mettrait dehors ». Il y a des gens impolis qui me disent « on te virerait comme… » Je ne dis pas qui c'est, mais Claudine, je peux dire que c'est toi ? Non, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que vous feriez ? Vous seriez d'accord si vous appreniez que je vis dans l'idolâtrie ? Dans l'idolâtrie, si je vais prier dans une église, les idoles. Oh, je vais prier. Lisons ce texte, lisons-le, n'oubliez pas qu'il a été écrit pour que toutes les églises sur la terre sachent ce qu'il faut faire pour que le nom du Seigneur soit élevé. Parce que si nous ne mettons pas de la discipline dans l'église avec beaucoup d'amour et d'équilibre, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais mes frères et sœurs, on n'élèvera pas le nom du Seigneur, on fera honte au Seigneur. Et moi j'ai envie que dans cette assemblée où Dieu nous a placés, nous élevions le nom du Seigneur. Lisons-le, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, c'est pas grave, on y reviendra. C'est une étude que je fais avec les anciens, je le fais d'une manière peut-être plus complète, mais il faut la faire aussi avec l'Église, puisque c'est dans la Bible. 1 Corinthiens 5, verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est un cas d'inceste, donc. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Vous voyez, il y a une vraie joie dans l'Église. Mais s'il y a le péché, elle n'y sera pas. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. non pas d'une manière absolue comme avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Alors il resterait peut-être à bien regarder dans un dictionnaire ce à quoi correspondent ces mots, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas à quoi correspondent ces mots. Et voyez, quand David, pendant 3 mois, a cherché comment ramener l'arche, je pense que ça entre dans le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou de même pas manger avec un tel homme. Qu'est-ce que j'en ai fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. La sentimentalité qui se retrouve aujourd'hui dans les églises. Si les gens ne sont pas spirituels, ou ils sont charnels, ou ils sont sentimentaux, ou ils sont, voyez, dans l'intellectuel, il y a des gens qui aiment des prédications qui sont vachement bien construites, ce qu'on appelle l'art oratoire, tout ça. Bon, avec moi, ça va, vous allez attendre. Mais, mes frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, bien sûr, voyez, quelqu'un va dire, oui, mais qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ne jugez pas. Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Et donc les gens ne connaissent que ce verset, s'ils le connaissent maintenant. Alors on est là, mais qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour tatati tatata. Et c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on pardonne tout, le péché on peut le pardonner et en même temps le régler. Et voyez, nous sommes dans l'apostasie. Le monde entier, l'église entière sur la terre est dans l'apostasie. Mais moi, mes frères et sœurs, vous me connaissez, là je parle en tant que chrétien, je ne parle même pas en tant que pasteur. En tant que chrétien, moi je refuse de basculer dans l'apostasie. Moi je veux marcher dans l'obéissance, point. Et si Dieu permet que je sois votre pasteur, eh bien que cela puisse profiter à l'ensemble de l'église, à savoir comment il faut faire. Non, on n'a pas jugé les pécheurs. Je parlais tout à l'heure du pécheur qui vient dans l'église, mais qu'ils viennent. Ils viennent, ils se convertissent ou ils ne se convertissent pas. Ils ont un témoignage déplorable ou pas. Ils sont grossiers, ils sont vulgaires, débauchés, etc. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez compris. Ça ne noircira pas l'église. Mais les chrétiens, et c'est là, mes frères et sœurs, qu'il faut absolument que nous comprenions. Je dis aux anciens à côté que Jean, lorsqu'il écrit, il dit non, ça je ne vous écris pas parce que j'ai pas voulu le faire avec la plume. J'attendrai de vous voir de vive voix. Il y a des problèmes, il faut attendre qu'on se voit de vive voix, etc. Mais là, Paul, il apprend ce problème à Corinthe, il leur écrit, il dit mais je vous l'écris. Il faut absolument que vous enleviez ce frère de l'église parce qu'il est en train de détruire l'église. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous, on est là, mais il faut le gagner. Oui, il faut le gagner. Oui, il faut le gagner. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et le ciel. S'il t'écoute, tu as gagné. Et le but, c'est tout le temps de gagner. Alléluia. Le but, c'est tout le temps de gagner. S'il ne t'écoute pas, vous connaissez la suite? Vous connaissez la suite? Vous avez vu dans quel contexte c'est écrit, ça? Moi, vous le savez, je dois beaucoup à M. Olé. Merci, M. Olé. M. Olé m'a beaucoup aidé parce que chaque fois qu'on étudiait la Bible, il me disait, M. Go, vérifiez toujours le contexte. Et ça m'a beaucoup aidé, même pour cette étude. Regardez avec moi, dans Matthieu, regardez le texte d'un Corinthien. C'est un long sujet, on n'en parle jamais parce qu'on a peur, parce qu'il y a toujours des nouveaux dans l'église, on a peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de les contrarier peut-être. Je ne pense pas que les gens sont contrariés lorsqu'ils entendent la vérité. Les gens sont heureux quand ils entendent la vérité, quel qu'il soit. Matthieu 18, regardez un verset que nous aimons particulièrement, le verset 19. Regardez, ça ce sont des promesses que notre cher Sauveur nous a faites avant de remonter au ciel. Regardez ce qu'il a dit, c'est merveilleux, c'est archi-rassurant, c'est une consolation, une espérance merveilleuse. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est pas une belle parole ça? Je sais pas si on est dans un foyer, c'est pour ça mon frère, si tu es marié avec une chrétienne, ma sœur, si tu es marié avec un chrétien, je sais pas si vous vous rendez compte sur quoi correspond cette parole. Je ne sais pas si on réalise. Quand je vois des couples chrétiens qui prient même plus ensemble, je ne veux pas vous faire la leçon, je n'ai pas envie d'être un rabat-joie. Je voudrais qu'on comprenne qu'il y a des paroles extraordinaires dans la Bible. Regardez la suite. « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous vous rendez compte? Vous vous mettez là le soir auprès de la salle à manger et vous priez avec votre épouse, avec votre mari. Eh bien, le Seigneur, il est là. Vous vous rendez compte si Jésus avait dit, écoutez, il en sera ainsi, je serai avec vous lorsque 60% de l'église locale sera rassemblée. Mais il aurait pu le faire. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Ben oui, il aurait pu. Et ça tenait debout. Mais regardez le contexte de ces promesses, aussi belles les unes que les autres. Le contexte, c'est la discipline dans l'église. On n'y fait pas attention. Si les pasteurs n'y faisaient attention, peut-être que le royaume de Dieu serait mieux. Matthieu 18, 15, le contexte de ces deux promesses. Si ton frère a péché, alors il faut vérifier, attention, hein, on n'est pas là pour jouer la chasse aux sorcières. Attention. Parce que souvent dans les églises, on a jugé les nouveaux, qui n'avaient rien à voir avec ça. On a jugé des comportements. Alors ça, c'est grave, parce qu'il y a des frères et sœurs qui s'autorisent des fois à juger un comportement. Tiens, celui-ci, parce que là, attention, si ton frère a péché, c'est sérieux, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, t'as gagné ton frère. Alléluia. Alors le péché, vous voyez, des fois on le sait, des fois on ne le sait pas. Regardez avec moi, on va le faire quand même. 1 Timothée 5. Quelqu'un me dit, et si on ne le sait pas? Eh bien, regardez. C'est important, ça. Et l'Église doit savoir ces choses. Regardez, je vous le dis parce que mes frères et sœurs, j'ai beaucoup prié cette semaine, j'avais à cœur de faire ça avec les anciens, mais depuis vendredi, je suis poussé à partager ça avec toute l'Église, parce que c'est toute l'Église qui doit être au courant. 1 Timothée 5, verset 24. C'est un sujet qui est très très bien expliqué dans la Bible, c'est pour ça qu'on doit le faire avec sérieux, avec joie, avec amour, parce qu'on aime l'Église. Regardez, 1 Timothée 5, verset 24. « Les péchés de certains hommes sont manifestes. Avant même qu'on les juge, tandis que chez autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » Ben, c'est comme ça. Il y a des péchés comme... Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous traumatisez pas, ne cherchez pas des péchés là où il n'y en a pas. Faites attention à ça. Il faut vraiment vérifier que la chose soit avérée. Et on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est facile quand même à voir. Si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. Alors je vais vous expliquer, il y a un principe biblique qui part de la douceur. La douceur, on doit toujours commencer par la douceur. Reprenez avec douceur. La deuxième étape, c'est reprenez en instruisant, etc. Il faut que la personne sache que si elle continue à prier les morts, c'est un idolâtre. Moi je l'ai dit à plusieurs personnes ici, bien sûr, qui avaient été baptisées, trop vite fait. Et bien sûr, quand je leur ai dit, mais non, il ne faut pas prier pour votre grand-mère. Mais si, ma grand-mère, elle est partie, il faut que je prie pour elle, j'en suis sûr. Et je dis, mais écoutez, c'est une abomination. Non, monsieur Hugo, ce n'est pas une abomination, c'est bien. Voyez comment les gens sont dans la sentimentalité. La Bible dit que quand vous priez les morts, si vous priez la Sainte Vierge, si vous priez Saint-Antoine parce que vous avez perdu vos clés, on vous dit que quand vous perdez les clés, il faut prier Saint-Antoine, tout ça, ça fait rire. Mais les gens le font, c'est une abomination. Si vous voulez des preuves, je vous les donnerai tout à l'heure. Donc il y a un processus qui part de la douceur, qui va jusqu'à la fermeté. Paul, lorsqu'il écrit, voyez, aux Corinthiens, il embraye de suite sur la fermeté, parce qu'il sait de suite que ce problème est en train de détruire, je pèse mes mots, de détruire l'Église. Et c'est pour cela qu'on a plein d'Églises qui ferment, on a plein d'Églises qui n'y a plus personne, parce que le Seigneur n'honore pas. Et nous croyons que si nous honorons la parole, Dieu nous honorera. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Après, il y a une autre étape. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Alors, vous voyez, il faut pas être sévère. Ah bon, on va le rejeter complètement? Non. La personne qui n'écoute pas le pasteur ou l'ancien, qui n'écoute pas après les deux ou trois frères qui sont chargés de poursuivre l'affaire et qui n'écoute pas l'Église parce qu'il faut avertir l'Église. Et souvent, on n'a pas osé. Moi, le premier. Vous savez, quand je suis arrivé à Grouillet, il y avait 20 personnes. Il m'a fallu mettre en discipline 4 personnes de suite. Je me suis dit, si ça continue, tu vas prêcher à ta femme et à tes enfants. Mais je vous assure, je crois que j'aurais été prêt à le faire. Et il y a quelqu'un de Grouillé qui était là quand j'étais? Il y a Sylvie Fagé, non, elle est là? Ah, il y a Laurence, elle n'ose pas. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Quand, 3 ans après, on était 130 membres dans l'église. Laurence, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mes frères, pourquoi? On n'a fait aucune mission d'évangélisation. Aucune. On a fait de l'évangélisation le vendredi soir, le dimanche après-midi. On n'a pas dépensé un centime pour inviter un évangéliste. Et en 3 ans et demi, il y avait 130 membres adultes dans l'église. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait des gens qui troublaient, il y avait des gens qui étaient dans le péché, et on l'a fait. Et j'ai vérifié que quand on part de cette étape de la douceur jusqu'à le fait, alors que l'expression, qu'un tel homme soit livré à Satan, c'est une expression qui fait peur, mais en vérité, ça veut dire qu'on remet quelqu'un dans le monde en disant « tu n'es plus un frère, tu n'es plus un frère ». On doit le dire à l'Église, cette personne, à cause de son comportement qui est contraire à la marche de Dieu, contraire à la sainteté, doit être retirée de l'Église. Appelez-le exclusion, appelez-le mise en discipline, c'est pas trop grave le mot qu'on utilise. Ce qui est important, c'est que on considère plus cette personne comme un frère. Mais quelqu'un qui n'est pas un frère, est-ce qu'il faut l'aimer? Est-ce qu'il faut aimer les inconvertis? Voyez, attention! Attention, quand vous lisez la deuxième épître, l'apôtre Paul est obligé de les reprendre une deuxième fois parce qu'ils ont été trop sévères cette fois-ci. Et que le gars a demandé pardon, ils ont du mal à le réhabiliter. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais je peux vous dire que c'est ça. Mais en vérité, il y avait un péché de débauche sexuelle, parce qu'il y avait un gars qui couchait avec sa belle-mère. Mais ça devait être ça, ou il peut y avoir une autre situation. Mais en fait, c'est pareil. Et la deuxième chose, il y avait un péché encore plus gros, c'est que les anciens étaient indifférents à l'égard du péché. Et dans une église, nous devons veiller les uns sur les autres. On a appris dans des églises que plusieurs personnes savaient qu'il y avait tel pasteur qui pratiquait le péché et on ne disait rien parce qu'on avait peur du pasteur ou on avait peur de cafeter. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons la gloire de Dieu dans l'église? Je te pose la question, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans l'église? Est-ce que vraiment tu dis, mais il faut qu'on s'applique? Il faut qu'on s'applique. Qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul? Alors, on y reviendra, on n'a pas le temps. Je ne veux pas alourdir. C'est une présentation d'un sujet qui doit être abordé. C'est nécessaire. Dans l'apostasie, nous serons obligés d'en arriver là. C'est pour ça que je nous demande à chacun de veiller les uns sur les autres. Et si vous voyez quelqu'un qui trouble, moi ça m'est arrivé. Monsieur Gauss, telle personne, ça fait un an qu'à la fin des réunions, elle trouble tout le monde. Mes frères et sœurs, si demain vous amenez votre patron, ça fait un an qu'il lutte, qu'il combat, il vient pour la première fois, à la fin du culte, il se fait attraper par quelqu'un qui va le troubler, etc. La Bible dit que celui qui trouble, il faut l'éloigner. Il faut le faire pour lui et pour l'œuvre de Dieu. Alors, il y a plein d'enseignements, mais la solution, elle est au verset 9 dans 1 Corinthiens. Quand même, elle est là, la solution. Il faut comprendre les choses. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Parce que le plus important, je ne sais pas si vous comprenez tout, et si vous ne comprenez pas tout, c'est parce qu'on n'aborde jamais ces problèmes, et c'est normal que vous ne compreniez pas tout. Mais mes frères et sœurs, ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Parce qu'il y a le reproche bien sûr aux anciens qui n'ont pas réglé le problème, de l'indifférence à l'égard du péché. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous ai écrit dans ma lettre. Donc vous voyez, il l'a écrit. Et moi, j'aurais un problème comme ça, on aurait peut-être dû y aller, mais c'était urgent, il fallait l'écrire. De ne pas avoir de relation avec les débauchés. Donc voilà la solution. Des frères, des gens qui se disent frères. Vous voyez? Au travail, demain, vous allez avoir des gens, vous allez travailler avec des gens qui sont dans le péché sous toutes leurs formes. Il faut aimer ces gens. Il faut aimer les pécheurs. Comme il faut aimer un frère qu'on a mis en discipline dans l'église. Attention, il faut avoir de la compassion toujours pour les gens, qui qu'ils soient. Donc, il ne faut pas avoir de relation. Alors, de ne même pas manger avec un frère. Moi, ça m'est arrivé, un frère qui... Un ami. On s'est posé la question avec ma femme, est-ce qu'on continue à l'inviter? Il vit dans le péché maintenant. Or, on a dit oui. Mais on lui dira qu'on ne le considère plus comme un frère. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus un frère. Tu vis dans le péché, tu vis dans la débauche, tu n'es plus un frère. Mais on t'aime. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'honnêteté. Parce que si quelqu'un vit dans le péché, il continue à prendre la Sainte Cène, il croit qu'il est toujours en communion avec Dieu, vous le trompez. Et quand on va passer devant Dieu, mes frères et sœurs, moi je peux vous dire que nous les pasteurs, ça va mal se passer. Parce que les gens vont nous dire, mais tu le savais, et tu ne nous l'as pas dit. Mais quand les gens seront en enfer, ça va quand même changer de sentiment, je vous le dis. Alors on a la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut bénir. Dieu veut que l'on gagne. Dieu veut que les gens soient restaurés. Est-ce que tout le monde peut être réhabilité? Oui. Est-ce que dans l'Apocalypse, quand vous lisez les lettres, même l'église où il y a dans l'église des membres de la synagogue de Satan, qu'est-ce que Dieu leur dit? Qu'est-ce que Dieu leur dit? Repentez-vous. Repentez-vous. Dès qu'il y a repentance, c'est-à-dire vraiment je me repens. Quand je pense que je contribue à enfoncer le nom du Seigneur dans l'église, le dimanche soir, je regarde des cochonneries à la télévision, ça contribue. Si vous n'êtes pas membre, c'est votre problème. Mais si vous êtes chrétien et que vous mainteniez de l'impudicité ou des choses qui attristent le Saint-Esprit, on pourra prier, je vous dis, 36 heures, on peut faire l'essai. Ça ne servira à rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et mes frères et sœurs, si tous on le fait, mais on le fait avec joie. Il n'y a pas de joie à discipliner quelqu'un. Il y a une grande joie à obéir. Il n'y a pas de joie à discipliner une âme. Ça, c'est clair, il n'y a aucun plaisir. Mais par contre, il y a un plaisir à voir Dieu bénir. Et si tous on le fait, que ça prenne 3 mois, comme ça s'est passé avec David, que ça prenne un peu moins, je l'espère, ou un peu plus, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tous les chrétiens travaillent à célébrer cette véritable fête. On le voit, Dieu veut que cette fête soit célébrée. Il n'y a pas que le problème du péché qui ressort dans ce chapitre. Quand il dit « célébrons donc la fête », voyez, on va terminer le culte. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas envie que toutes les églises de France, toutes les églises qui prêchent la parole, hein, vous n'avez pas envie que dans toutes les églises de France, le Saint-Esprit se manifeste? C'est la volonté de Dieu. Mais l'arche, il ne fallait pas la porter sur des chars. Il ne faut pas faire à la méthode du monde. Le monde, il a ses méthodes et ça rentre dans l'église. Mes frères et sœurs, on ne fait pas rentrer la méthode de Dieu dans l'église. Là, pour avoir l'assistance du Saint-Esprit, il faut que l'église marche dans la crainte du Seigneur. Et mes frères et sœurs, si nous avons la crainte de Dieu, eh bien, Dieu va nous bénir. Et s'il y a un truc qui ne va pas, eh bien, repentons-nous. Si vous dites, ah mais c'est vrai, je ne prie pas, je freine l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté qui devrait être fait, qui n'est pas fait. Mes frères et sœurs, Dieu veut manifester sa gloire dans l'Église. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cette prédication? J'ai presque envie de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. S'il y a une question à poser, dans le cadre d'un culte, je ne le fais jamais parce que ce n'est pas à propos. Mais j'aimerais que vous ayez la liberté de poser des questions et de dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, peut-être que vous pouvez prendre un dictionnaire et dire, tiens, mais c'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi un outrageux? C'est quoi outrager le nom du Christ? C'est quoi outrager l'Église? Vous savez, les gens qui insultent l'Église, même s'il y a des trucs arrivés dans une Église, moi je vous conseille de ne jamais parler mal de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église du Seigneur, l'Église. Et il faut veiller, il faut veiller. Tiens, mais je vais prendre un dictionnaire et avec mes enfants, tiens, on va se mettre à faire le culte en famille. On va partager ces mots-là. On va revenir sur ces choses. David a pleuré certainement, il a été malheureux. Quand vous avez des jeunes qui meurent, ça ne fait pas rire, hein, vous ne croyez pas? Quand on perd des âmes dans l'église, ça ne fait pas beaucoup rigoler. Quand vous allez dans une église, vous étiez 150, vous y revenez 3 ans après, ils ne sont que 30, je vous dis, ça ne vous fait pas rire beaucoup. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que la volonté de Dieu, c'est que des âmes soient sauvées. Et de toute façon, ça contribue aussi à accélérer l'enlèvement de l'Église. Parce que croyez-moi, mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens supplient, Seigneur, viens chercher, reviens me chercher. Bien sûr, c'est intéressant, moi ça me va que Dieu revienne dans 5 minutes. Hein. Mais mes frères et sœurs, si Dieu veut sauver votre fils et qu'il doit être sauvé, laissez-moi vous dire que le Seigneur, dans sa souveraineté, sa préscience, attendra que votre fils soit sauvé. Ça nous dépasse, mais Dieu, il sait quand est-ce que votre fils sera sauvé. Mais nos prières peuvent accélérer. Est-ce que c'est écrit hâter ces choses? Est-ce que c'est écrit? Alors mes frères et sœurs, soyons heureux. Je sais que des fois ces sujets, je les présente d'une manière trop sévère. Si vous saviez les efforts que j'ai faits, franchement, pour être tendre. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que nous avons un Dieu qui veut manifester sa gloire? Nous avons un Dieu qui veut se glorifier. À Toulouse. Vous savez, souvent je pense, quand je prie pour Toulouse, la première, ce que je vais vous dire, je saute du coq à l'âne. La première croisade qu'il y a eu à Jérusalem, vous savez d'où elle est partie? Elle est partie en 1235 de Toulouse. Vous entendez? Ça fait pitié quand même. Et pourquoi pas, en 2018, la bénédiction du Seigneur partirait pas de Toulouse. Amen. Vous y croyez? Amen. De toute façon, si on obéit, Dieu bénira. Amen. Mes frères et sœurs, demandons-lui sa grâce. Vous êtes d'accord? On lui demande? Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta parole. Et si nous préparons le chemin, tu nous dis qu'au même instant, ta gloire apparaîtra et que nos ennemis se tourneront vers toi. Nous sommes bouleversés, Seigneur, quand nous voyons ce qui se passe lorsque les croyants t'honorent. Nous voulons marcher avec toi, comme nous l'avons lu, te suivre, puisque celui qui te sert et que te suit, tu l'honoreras. C'est ce que nous voulons dans cette assemblée, Seigneur, t'honorer. Aide-nous, aide-moi, aide chaque couple, chaque membre de l'Église, Seigneur, à s'interroger, à chercher ta face, à vérifier si notre foi est correcte, qu'elle véhicule dans la crainte de ton nom. Seigneur, nous demandons tous ton aide, afin que dans l'Assemblée, nous contribuions tous à travailler pour vivre ce que nous avons chanté tout à l'heure. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.